C'est fini les vacances, au boulot tout le monde, et nous les premiers. Fini les cadeaux et repas à rallonge, il est temps de se remettre dans le bain. Pour attaquer cette année 2023 que l'on vous souhaite bonne, bien entendu, une nouvelle formule pour notre table ronde mensuelle, le .NET Quiz. Pendant une heure, je vais interroger nos Microsoft MVP pour connaître leur opinion sur différents sujets. Ce mois-ci, nous allons nous focaliser sur deux thématiques, le code C# et les développements d'applications desktop et web. Et vous, vous mettez des commentaires dans votre code? Vous utilisez des hashtags région? Blazor, c'est bien pour votre site e-commerce? Alors, plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request. Bien, et ben bonjour tout le monde et bienvenue pour ce numéro 11, le premier de l'année 2013, ça commence bien, de l'année 2023 de DevDev.net. Aujourd'hui, alors tout d'abord, ben, une bonne année, une bonne santé pour tous les auditeurs et puis tous les participants, les futurs participants à notre émission. Et donc aujourd'hui, je reçois Laurent Campé, bonjour.
Salut Richard.
Donc Microsoft MVP depuis 2003, catégorie Developer Technology, Team Leader et Distinguished Solution Architect chez Inoveo. Je reçois également Gérald Debarré, bonjour.
Salut.
Donc Microsoft MVP, catégorie Developer Technology depuis 2020, et auteur du blog Mesiantou.net. Jérémy Janson, bonjour.
Salut.
La catégorie est toujours Microsoft MVP, on n'a que des MVP aujourd'hui, Microsoft MVP, catégorie développeur technologique depuis 2010 et auteur du blog bughunter.net. Olivier Dahan, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Microsoft MVP depuis 2009, développeur technologique.
Et
la même secte, oui, fondateur de la société Inaxos, société de consulting et de formation sur .NET, C#, Maui et WPF. Et enfin, un nouveau dans notre équipe, Christopher Mommer, bonjour.
Hello.
Donc Microsoft MVP depuis l'an dernier, toujours catégorie développeur technologie, et donc j'ai mis freelance et auteur du site de e-learning HTS-learning et animateur d'une chaîne YouTube et auteur de plusieurs livres sur C#, Docker, Blazor et j'en passe. C'est correct
bien.
Ça résume bien.
Ça résume bien.
Bien, écoutez, j'espère que ces fêtes de fin d'année vous ont mis en pleine forme. Donc l'idée aujourd'hui, c'est une sorte de petit quiz, hein, c'est de parler de différents sujets, d'avoir un petit peu votre opinion par rapport à ces différents sujets. Donc par exemple, on va attaquer dans la catégorie développement C#, une question qui revient assez régulièrement, c'est est-ce que je mets des commentaires ou j'en mets pas ? Je sais que dernièrement, il y a eu toute une vague disant qu'il ne faut surtout pas mettre de commentaires, le nom des méthodes suffit. Quelle est un petit peu votre opinion sur ce sujet-là ? Et Olivier, tu rigoles, toi.
Je vais me lancer. Non, le problème des commentaires, en fait, c'est un problème un peu chiant. D'abord, il y a plusieurs types de commentaires. On peut dire que tu as en fait les commentaires du genre « je supprime du code le temps que je mette en place un morceau de code que je le teste ». Pendant la conception d'un morceau de code, de pouvoir annuler des parties de code, ça peut être quelque chose qui se fait, mais c'est ponctuel. Et du code final ne doit jamais contenir ce genre de choses, à mon avis, en tout cas. Après, il y a deux autres types de commentaires. Tu as les commentaires / texte, où tu précises un truc, mais c'est valable à condition que tu précises quelque chose qui ne ressort pas du nom de la méthode et du code, quelque chose qui, des fois, mérite d'être précisé. Donc, c'est assez rare. Et en fait, ce genre de commentaire, il ne doit pas y en avoir beaucoup dans un code. Et puis après, tu as les / summary qui permettent de mécaniser en fait, la création de la doc du code. Je pense que cela, il doit y en avoir partout. Toutes les méthodes doivent être documentées avec leurs paramètres d'entrée, de sortie, machin, etc. Donc, tout dépend de quel type de commentaire on parle. Et en fait, il y a du bon, et puis forcément, il y a du très très mauvais aussi. Donc, si c'est pour dire la méthode fait ceci, c'est que c'est mal fait et que la méthode porte un mauvais nom, on est d'accord. Quoi. Donc, c'est à peu près ce que j'en pense.
Il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose ?
Ouais.
C'est, oui, vas-y.
En gros, tu vois, ton code, il dit comment les choses marchent. Dans les commentaires, tu peux aussi rajouter pourquoi les choses sont faites de certaines façons.
Oui, c'est l'intention.
Ça, c'est ton code ne l'exprimera jamais. Quoi. Donc, les commentaires qui rajoutent de l'information sont toujours utiles. Après, si tu as le code de .NET aussi, tu verras, certains fichiers commencent par 60 lignes de commentaires qui t'expliquent en gros c'est quoi l'architecture, c'est pourquoi c'était fait comme ça, c'est comment ça marche dans les très grandes lignes. Donc des fois, tu as des énormes blocs de commentaires en début de fichier. Ça, c'est aussi très utile, je trouve.
Ouais. Et justement, le triple slash, là, il y a quelqu'un qui l'utilise, enfin, à part le fait qu'il existe, mais quelqu'un l'utilise pour faire des extracts et faire de la documentation proprement parlée.
Donc, moi, je disais, oui, nous, moi, j'utilise ça, mais pas partout, comme disait Olivier. Mais pas pour l'extraire, mais pour depuis l'IDE, pouvoir un overlay sur une méthode ou avoir un raccourci clavier pour afficher la documentation. Mais pas pour l'extraire et avoir un site de documentation externe au code. Pour moi, ça va avec le code. Bon, c'est aussi vrai parce que c'est pas... Par exemple, pour un NuGet, si on a un site externe qui a de la documentation, peut-être c'est intéressant aussi. Mais dans mon cas, on n'a pas ce genre de besoin.
Christophe, tu voulais intervenir ?
Ouais, moi je suis plutôt partisan du fait que les commentaires vieillissent généralement beaucoup plus mal que le code. Quand j'étais à un moment team leader, je forçais, j'étais méchant, je forçais ceux qui bossaient avec moi de mettre des commentaires partout et même des summaries sur les méthodes privées. Et on m'a fait la réflexion en disant mais ça sert à rien parce qu'une méthode privée, c'est un détail d'implémentation. Et au final, je suis arrivé à quasiment plus mettre de commentaires parce que je suis parti du principe que dès lors que je dois commenter quelque chose, c'est comme si on devait expliquer une blague. C'est que c'est mal décrit, c'est mal fait en fait. Donc, je préfère avoir le code qui est autodescriptif et du fait aussi que j'ai une grosse couche de tests derrière qui vont documenter beaucoup le comportement des API, ça fait un peu effet commentaire. Quand on a beaucoup de tests, on a des cas d'usage. Après, sur les summaries, je les utilise quand je dois publier une API qui va être destinée à des gens de façon publique pour décrire ce que ça peut faire, pour qu'ils aient un peu plus d'infos. Mais sinon, après, j'ai quasiment pas de commentaires dans mon code.
Jérémy ?
Ouais. Alors moi, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai vécu justement le contre-exemple de ce que vient dire Christophe. Je suis tombé sur des projets où des personnes avaient forcé effectivement les règles pour obliger à commenter toutes les méthodes. Et en fait, quand j'ai regardé comment c'était mis en place au niveau du projet, j'ai trouvé quelque chose de bizarre. Donc j'ai supprimé la règle et je l'ai remise. Et là, d'un coup d'un seul, je me suis mis à avoir un Visual Studio qui avait des comportements étranges, puisqu'en fait, c'était un vieux format de projet avec des développeurs qui avaient forcé des règles, on ne sait pas comment, par quel moyen. Et en fait, en supprimant la règle, on s'est retrouvé à avoir l'IntelliSense qui s'est remis à fonctionner. Parce que les commentaires étaient mal formatés, étaient complètement foireux. Alors bon, c'était un contexte, un mix de VB et de C#. J'ai trouvé ça très rigolo, en fait, qu'une règle qui est censée aider pour la qualité, en fait, mette le brin.
Il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose sur ce...
Tu vois, avec les nouvelles versions de C#, tu as aussi moyen de... C'est ton code, tu peux le rendre plus lisible. Tu peux faire des méthodes locales, par exemple, enfin des fonctions locales. C'est comme ça, tu donnes un vrai nom à un bloc de code. Tu vois, c'est des choses comme ça qui aident aussi à avoir besoin de moins de commentaires pour expliquer que ton code fait réellement. Donc, ça aide aussi à en supprimer quelques-uns.
Je trouve que l'injection, par exemple, ça a beaucoup aidé à retirer du commentaire. Parce que les classes sont devenues de plus en plus petites. J'ai énormément de classes qui ont 30 lignes de code. Hein. Moi, j'ai des projets, j'ai redémarré des projets. Si j'atteins les 60 lignes de code, hein, de véritable code, hein, c'est le maximum. Les commentaires ont plus trop leur place. Alors, j'ai des commentaires, moi, que j'aime beaucoup. Je pense qu'on les a tous eus à un moment. C'est le « ça marche, on ne sait pas pourquoi ». Ça, je pense que c'est le genre de commentaire qu'il ne faut pas supprimer parce que c'est juste des perles, quoi.
Ou alors, tu as celui « on ne devrait jamais passer ici ».
Ça, j'ai déjà vu, c'est pas mal.
Non, ceux-là, il faut les laisser, ça va se détendre un peu quand on lit le code.
Oui, il faut les avoir tout en temps, ceux-là, quand même.
Et moi, j'ai un collector, j'avais une classe qui faisait 1500 lignes, et en fait, il y avait 150 lignes effectives. Le fin, c'était un truc, il y avait un commentaire poubelle, et en bas, tout était commenté, c'était tout l'historique du fichier, malgré que c'était sous un contrôle de code source, mais il y avait toute une poubelle à la fin, au cas où tu avais besoin d'aller chercher des trucs dedans. C'est collector aussi, ça.
Oui, il y a une chose aussi qu'on retrouve assez régulièrement sur les vieux projets, c'est des parties de code entières qui sont commentées et on les laisse en se disant toujours « Oh, on ne sait jamais, j'en aurai peut-être besoin plus tard. »
Ouais, bah, Yagni. Hein.
Bah, alors là,
ça c'est une horreur.
Bien, on a un système de versionning pour ça, hein. Pas besoin
de
comment faire.
Il paraît.
Et puis un dernier mot pour le moi, j'utilise aussi les commentaires dans certaines classes qui sont un peu spécifiques, on va dire, des fois. Par exemple, quand ça se trouve dans un pass d'exécution où le code est optimisé pour être rapide, des fois il y a des codes qui peuvent être un peu surprenants. Et là, je pense que les commentaires sont assez... C'est difficile des fois d'exprimer avec le code ce qui se passe. Et là, les commentaires sont vraiment utiles.
Oui, alors après, il y a aussi des fois des commentaires qui sont intéressants. C'est pour expliquer les nouvelles syntaxes de C#. Parce que là, je suis en train de lire là, l'article de Gérald là, sur les listes patterns. Bon, il y a des fois, c'est bien d'avoir un petit peu de commentaires pour expliquer ce qu'il fait exactement. Parce que... Bien, autre chose aussi qui souvent revient, c'est, vous savez, depuis C#, le tout premier, enfin, depuis la première version de .NET, on a ce qu'on appelle les régions. Et ça a été bien utilisé pour les Windows Forms. Hein, Et donc maintenant, il y a des gens qui sont un petit peu méchants et qui disent dès qu'il y a une région, je supprime le code. Au contraire, rajoutent des régions un petit peu de partout. J'ai même vu des régions à l'intérieur de régions, à l'intérieur de méthodes. Votre opinion là-dessus ?
Bon, les régions, en fait, au départ, tu trouves ça sympa. Donc, au départ, tu en mets parce que tu clarifies le code, ça te permet de replier des trucs, par exemple sur des implémentations, les parties publiques ou les fields ou les machins. D'une classe, tu vas en profiter. Puis très vite, tu t'aperçois en fait que ça fout le bordel plus qu'autre chose. Hein. Et puis aujourd'hui, avec le recul et tout ça, en fait, non, les régions, c'est un truc abominable, il ne faut pas s'en servir, bien sûr. Il y a au moins deux problèmes que ça pose. C'est ce qu'on appelle soit le code smell, ou soit c'est carrément une anti-pattern, quoi. Hein, donc, un code smell, c'est plutôt un symptôme qui indique que tu as un problème dans la conception et que ça va augmenter le nombre de bugs. Ce n'est pas tout à fait le cas pour les régions, elles n'augmentent pas le nombre de bugs. Mais par contre, elles peuvent contribuer à créer du code smell, comme par exemple les méthodes qui sont trop longues ou les trucs de ce genre-là. Et puis, une anti-pattern ou un anti-pattern, ça va dépendre comment on dit, hein, ou un anti-modèle, en fait, c'est plutôt un pattern qui est utilisé dans des opérations sociales, commerciales et chez nous dans le génie des logiciels pour être couramment utilisé, mais qui est inefficace ou contre-productif dans la pratique. Et les régions, en fait, c'est plutôt de l'anti-pattern, c'est-à-dire qu'elles nécessitent plus de travail, et elles augmentent donc pas la qualité du code, parce que ça ne fait rien, ça augmente très très peu, et en fait pas du tout la lisibilité du code, puisque ça le cache. Et en fait, ça a des effets pervers qui peuvent augmenter les bugs, parce que tu as des parties de code qui vont être cachées dans des régions qu'on ne va pas déplier, et on ne repasse pas dessus, on ne pensera pas à les refactorer, on ne pensera pas à enlever un bug, on ne pensera pas que la méthode existe et on va créer un autre truc qui fait la même chose avec un autre nom plus loin. Donc, ça pose quand même vachement de problèmes. Donc, je pense que les régions, on va dire pour simplifier, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, il ne faut pas mettre. Mais peut-être que d'autres ont des avis différents. Et je suis ouvert.
Alors, je voulais savoir s'il parlait principalement des régions qu'on a eues récemment qui permettaient d'avoir des régions dans les méthodes. Des régions de manière globale.
Non, de global, je pense qu'il parle.
Oui, de façon globale, oui.
Parce que moi, c'est vraiment les régions dans le code. Dans une méthode, ça, je ne supporte pas. Ouais, qu'il y ait des régions pour séparer, par exemple, les propriétés, les méthodes et autres, et qu'il y ait des zones business me dit à un moment, on aura peut-être faire une classe, et les régions dans une méthode, c'est non, c'est alors, pas la méthode. C'est planté, quoi.
Je savais même pas que c'était possible dans une.
C'est possible, c'est possible. Ah, moi, j'ai du code avec ça. T'as 2000 lignes dans la méthode et puis t'as 10 régions, quoi.
Fait ça, il est viré immédiatement. J'ai deux cas d'utilisation des régions.
On va t'appeler en haut
du fichier.
Alors, je peux trouver des entreprises pour les embaucher si tu les viens.
Ça marche. C'est bien. Il y en a quelques-uns qui partent là.
C'est pas grave, c'est à l'est aussi. Hein. On reste à l'est. Hein. Tu peux les envoyer.
Non, pour moi, les régions, c'était acceptable dans deux cas. Ce ne l'est plus que pour un cas. C'est cacher le copyright en haut des fichiers. Quand j'ouvre un fichier, pour moi, ça, c'est du bruit. Donc, je ne veux pas avoir de l'espace de mon environnement de travail avec ce visuel. Et par le passé aussi, pour les parties où on a les using. Ça, maintenant, c'est la plupart des IDE le collapse automatiquement. Le copyright, c'est pas collapsé, donc moi je le mets dans un région pour que ça soit collapsé quand on ouvre le fichier. Et le reste, je veux pas avoir de région.
Tu sais que ce dernier cas, il est quasiment plus obligatoire avec les using implicites qu'on a dans C# 10 et 11.
Ouais, ça c'est encore autre chose. Les implicites, c'est encore, je pense, autre chose. Mais ouais, on pourrait voir comme ça.
Le cas des blocs using. Ouais, mais le cas des blocs using, moi, il me dérange beaucoup parce que justement, j'ai fait du ménage et pas mal de qualité de code sur des vieux projets. J'étais choqué du nombre de fois où je tombais des usines ou des imports en VB. Je pouvais en mettre la moitié à la poubelle, quoi.
Ouais. Wow, c'est pas possible, ça.
Si, je peux t'assurer, sur des vieux codes, hein, j'ai des codes qui ont 20 ans, 20 ans d'existence, et c'est assez choquant de voir ce qui se passe au niveau using. Hein.
Ouais, parce que tout le monde mettait alors, tout en même temps.
Ouais, alors je ne sais pas si tu sais, mais maintenant, je crois qu'il n'y a pas longtemps, là, dans Visual Studio, tu peux demander au moment où tu enregistres ce qu'il te fasse un clean, et tu peux te supprimer automatiquement ouais. Le using inutilisé.
Tu connais ma phrase préférée, alors, Richard.
Là-dessus.
Non, mais moi, ma phrase préférée, c'est oui, mais non. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, il y a des projets sur lesquels ça ne fonctionne pas. Quand vous avez un mix de langages et qu'il y a des langages qui sont passés, enfin, les développeurs n'ont pas fait du CLS compliant, c'est un véritable calvaire. Moi, j'ai essayé. Hein. Je fais un test avant, un test après pour vérifier si déjà je compile et je fonctionne. Et je me rends compte des fois que c'est catastrophique. Moi, j'ai eu deux cas très graves. Et entre autres, je me suis rendu compte que quand les projets qui mélangent langage sont mal écrits, on va avoir la fonctionnalité qui supprime des usings inutiles qui va faire un travail. Et si vous regardez Visual Studio, il va vous indiquer qu'il y avait certains usings au niveau coloration. Hein, il va vous indiquer que certains usings n'étaient pas supprimés. Par contre, quand vous faites le clic droit, il va les supprimer. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Ouais, d'accord.
Ouais, c'est bizarre. Pardon.
Ouais, mais ça arrive sur des projets mal foutus. Ça arrive ouais. Et ça fait mal.
De mon côté, j'utilise Richard Pear depuis des années et des années. Maintenant, ouais. Rider, comme vous le savez la plupart. Et ce formatting, moi, c'est une des premières choses qui a été mise en place. Quoi. Je ne veux pas avoir du code qui est commenté. C'est comme une méthode qui n'est pas utilisée, moi, un using qui ne sert à rien. Donc, ce code, il doit pas aller dans mon repository de code. Donc, il doit être formaté automatiquement, au save ou autrement. Nous, on le fait au moment du commit, en fait. Quand tu commits, tous les fichiers sont non seulement cleanés des using, mais les méthodes sont réordonnées, les propriétés sont réordonnées, tout ça, c'est défini, et tout ça, c'est formaté, quoi. Automatiquement, quoi.
Les using, c'est vraiment genre, le truc que tu touches jamais aujourd'hui, parce que bah, c'est ça, quand tu sauvegardes, il te les clean, quand tu fais ton IntelliSense, il te les ajoute, quand tu pastes du code, il te les ajoute. Donc, et puis c'est pour ça que maintenant on peut même collapser la section au complet, parce qu'en fait on n'y touche jamais au using, sauf quand on a importé de mauvais. Là on va la changer comme il faut, mais à part ça, il n'y a aucune raison.
Il y a eu des cas aussi de collision de nom, en fait, de nom de classe. Tu peux avoir deux using qui déclarent le même nom d'objet, par exemple, et selon l'ordre dans lequel ils sont déclarés, ou selon s'il est là ou il n'est plus là, tu vas te retrouver avec un code qui passe ou un code qui ne compile plus. Quoi, je veux dire.
Il y a un autre exemple concret avec une librairie qui s'appelle Morelink. Et quand tu passais d'une version du framework à une nouvelle, le framework avait intégré certaines extension méthodes que Morelink implémentait, et là, tu avais des clashs, par exemple. Mais c'est quand même relativement rare. Quoi.
C'est encore le cas dans d'autres frameworks. Hein. Tu as des classes qui s'appellent constantes, les gens qui font du VB, entre autres.
Oui.
Bien. On revient sur les régions, là, parce que quand même, au point de départ, les régions, tu sais, si on se tape un peu de l'historique, ça date de C# 1. C'était vraiment pour les designers, genre WinForm ou autre, ça leur permet de savoir, OK, dans le fichier généré, enfin dans le fichier, la partie générée, elle commence là, elle finit là, j'ai le droit de modifier ce qui est dedans, mais pas ailleurs. Depuis, c'est C# 2 avec classe partielle, en fait. Si votre fichier est trop gros, vous faites des classes partielles, vous splittez ça en plusieurs fichiers, et puis plus dans une région, quoi. Ça rend les choses beaucoup plus lisibles.
Oui, c'est vrai que l'histoire des classes partielles peut résoudre cette problématique. Quoi. Parce que j'allais dire, il y a tout le code qui est généré automatiquement par un outil externe. Où là, on sait qu'on n'a pas le droit d'y toucher parce que c'est l'outil externe qui le génère. Mais c'est vrai que si on fait ça sous forme de classe partielle et externalisée, il n'y a plus de raison d'avoir une région. Quoi. Bien, on va passer à autre chose. Alors, c'est une question qui peut être considérée presque aujourd'hui comme étant obsolète. Quel gestionnaire de source, TFVC ou Git?
Mais pas Subversion.
Non.
Subversion, c'est bien Subversion. Non, il y a un truc que j'aime pas du tout dans Git, ça je vais vous le dire, c'est un truc auquel j'arrive pas à me faire, c'est qu'il se permet de bricoler l'arborescence, l'architecture de mon disque dur selon comment tu changes les trucs. Et quand tu as une machine qui est backupée, par exemple, en temps réel sur le cloud ou un truc comme ça, d'un seul coup, parce que tu as changé de machin, en fait, bah, y a des répertoires qui disparaissent. Donc, il essaye de resynchroniser tout son backup automatique. Et puis, tu rebranches sur une autre branche, hop, les trucs qui réapparaissent dans le disque dur. Quand tu fais un dir, tu les vois ou tu ne les vois pas. Donc, lui aussi, il les voit ou il ne les voit pas. Et son backup, il va le faire, etc. Et je trouve que ça, c'est particulièrement détestable. C'est une très mauvaise solution qu'il y a eu dans GitHub. Après, le fonctionnement de Git, c'est bien, c'est super. Mais il y a des trucs de ce genre-là. Bon, je trouve que c'est vraiment ultra pénible. Et puis, sinon, bien sûr, bon, de toute façon, c'est à la mode. Alors, je sais, c'est un peu comme certains trucs aujourd'hui. Ça serait un truc sociétal. On dirait que ça, c'est un truc de woke. Quoi, je veux dire, parce que si tu dis le contraire, t'es un fasciste. Quoi, je veux dire, si tu dis que tu préfères la simplicité de Subversion, que c'est clair, net et que personne ne se trompe, alors que l'autre, c'est un truc qui est fait pour des équipes de 3000 mecs qui développent de l'open source partout sur Terre et que ce n'est pas adapté à travailler sur une équipe de 3 ou 4 mecs, je veux dire, bon, on va dire que tu es un abruti, que tu n'as rien compris, que tu n'es pas un moderniste. Donc, on est tous obligés de dire qu'on aime GitHub. La réalité, c'est que je pense qu'effectivement, ce n'est pas adapté pour les petites équipes. Quoi, et qu'en dehors de ces petits problèmes.
On parle de Git, pas de GitHub, je crois.
Oui, de Git.
Hein, ouais. Mais même Git ou GitHub, en fait, bon, tu arrives à.
C'est la logique. Ah, c'est pas la même chose. Hein.
C'est dans la catégorie DevOps. Je ne sais pas si on y arrivera là où justement la question c'est Azure DevOps ou GitHub. Mais on y reviendra plus tard.
J'ai l'impression qu'on dérape là-dessus. Ouais.
Bah, moi, en fait, je voulais dire que je suis moins tranché que ça parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de formations avec Azure DevOps, formé des sociétés et tout ça, et j'ai accompagné diverses boîtes. Et j'ai vu quelques boîtes qui tournaient encore en TFVC et qui m'ont expliqué leurs raisons qui étaient tout à fait valides. Notamment le fait, par exemple, que dans TFVC, une branche, c'est un dossier à part et ça permettait en fait à chacun de bosser en isolation complète dans des dossiers, ce que Git ne permettait pas parce que tu avais vraiment ton propre dossier avec tes propres trucs. Donc, il avait une raison qui était plausible parce qu'il y avait des gros refactos et tout ça. Et il y a aussi un truc qu'on n'a pas dans Git, c'est que, alors certes, les mentalités ont évolué et tout ça, mais TFVC va te permettre un contrôle jusqu'au fichier, au droit sur un fichier, ce que Git ne te permet pas de faire vu que c'est centralisé. Avec TVC centralisé, Git décentralisé. Donc, depuis TVC avec ton serveur, tu contrôles tout. Tu peux verrouiller certains trucs, donner des droits à certains et ainsi de suite, qu'avec Git, ça va être beaucoup plus compliqué d'arriver à ce niveau de contrôle. Après, on contrôle pas ses équipes, c'est un autre discours. Hein. Mais en tout cas, avec TVC, il peut encore y avoir des cas d'usage très restreints, je le concède, qui peuvent faire valoir le coup qu'on travaille avec cet outil, je trouve.
Il y a même des avantages. Hein. Il y a des choses qui n'existent pas dans Git et qui arriveront à l'avenir. Enfin, on voit que Git a évolué. Les gens qui ont fait du Git il y a 20 ans et qui en font aujourd'hui, ils se rendent bien compte que l'outilage n'est pas le même. TVC avait un train d'avance quand il est arrivé par rapport à son aïeul sur Safe, hein, faut quand même s'en rappeler. Les branches, par exemple, c'est un concept qui... Enfin, c'est une blague dans TVC. Moi, qui administre encore du TVC aujourd'hui, je vois les problèmes que ça représente. C'est pas les mêmes philosophies, c'est pas les mêmes outils. Aujourd'hui, on continue encore à les comparer. On ne devrait peut-être pas, effectivement, il y a des entreprises qui ont des usages, comme tu as pu l'écrire, Christophe. Moi, j'en ai vu, effectivement, on leur a appris à se passer de TFVC, on leur a appris à cloner X fois le même projet sur la machine pour reproduire le comportement qu'ils avaient avec le TFVC avec Git. Donc, on arrive à faire la même chose. La seule chose qu'on n'a toujours pas réussi à avoir pour l'instant, c'est la mise en pause. La notion de mise en pause de Visual Studio avec TFS historique, c'était en 2012, je crois, de tête, c'est un truc qui n'existe toujours pas, ça.
C'est quoi la mise en pause là,
Alors, tu as tout ton travail capté, qui est en cours. Tu as tout ton travail qui est en cours, en fait. Et tu as un onglet juste à côté de Team Explorer. Et tu as un bouton pause. Et en fait, tout ton travail, tout ton code qui était en cours de modification ne part pas sur un shell. Il est isolé. Alors, ça crée normalement un shell en fonctionnement. Par contre, tu as aussi les work items. Tu as fait des sélections de work items pour ton projet, pour préparer ta remontée de code. Ils sont sélectionnés. Tout ton environnement est conservé en l'état. Il est mis de côté, et plus tard, bah, une fois que tu as fini ton travail, tu peux revenir et tu dis bah, je ressors de la mise en pause, par exemple, pour reprendre le travail que j'avais à la base, et tu récupères en fait l'état de ton IDE au travers de TFS. Enfin, historiquement, c'était TFS, aujourd'hui Azure DevOps Server. Et ça, ça ne marche qu'avec
TFS. Un stash plus, quoi.
Un stash beaucoup plus, parce qu'en plus, tu peux. Enfin, je ne me rappelle plus. Moi, je ne l'utilise plus. Hein. Je décourage les gens d'utiliser, mais tu pouvais même en avoir plusieurs. Donc, c'est hyper costaud. Franchement,
tu peux partir en vacances serein, quoi.
Tu peux partir en vacances serein et un gros avantage pour des gens qui sont habitués à faire du TFVC, parce qu'aujourd'hui, c'est une problématique. Tu ne loques pas tes fichiers. Parce que TFVC, contrairement à du Git, a plusieurs mécanismes. Il y a des mécanismes clients et des mécanismes serveurs. Des stratégies clientes et des stratégies serveurs. Et on ne verrouille pas fichier. On n'a pas besoin d'appeler son gentil admin pour déloquer un fichier d'un collègue qui est parti en congé parce qu'il a bloqué un fichier.
Oui, c'est vrai que c'est des cas qui arrivent avec ça.
Ouais,
et entre autres, hein, pour les binaires, hein, parce que les gens adorent Git, mais il faut regarder ce qui se passe quand vous avez du binaire. Git, il n'est vraiment pas copain. Hein.
C'est pour ça que dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas très démocratisé encore Git. Hein. Quand tu clones un repo qui fait 50 gigs, Git, il n'est pas content, en général.
Bah pourtant, Microsoft avait bossé là-dessus, avec le, parce qu'ils ont passé Windows.
Ouais, sur c'est Git, en cours, en fait. Il y a plein de trucs qui sont petit à petit, se font merger dans Git. Là, tu regardes les notions de cône, les notions de... Bref, plein de choses. Là. Mais c'est pas encore, d'un point de vue expérience utilisateur, quand tu as des repos avec des data binaires en masse, je ne te parle pas de 3-4 fichiers qui traînent par-ci par-là, mais quand tu n'as vraiment que du data binaire, ce n'est pas la bonne solution actuellement. Quoi.
Ouais, les assets pour les jeux ou ce genre de choses. Quoi.
Ouais, typiquement.
Non, Git, il est bien dans la réconciliation au jour du texte. Quoi, ça.
Ouais, ça, pour tout ce qui est code, c'est génial.
Ouais,
3-4 fichiers binaires qui traînent par-ci par-là, quelques images ouais, pour les assets de ton programme. Quoi, mais...
C'est pour ça que dans la boîte où je bossais avant, ils pleuraient parce qu'ils avaient WinDev. Et en WinDev, c'est des binaires. Mais ouais, les gars, vous devez utiliser le truc de WinDev. Allez, bon courage. 4 heures pour
il y a des gens qui utilisent ça.
Ouais, malheureusement,
déjà, ça, c'est un suicide.
Donc. Bah, Montpellier, voilà. C'est, la boîte est sur Montpellier. Donc ici, ils ont la même mise, hein, faut pas croire.
Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit truc qui est rigolo. Excuse-moi, Richard.
Vas-y, vas-y.
C'est que Git a quand même induit des fonctionnements dans .NET. La notion de package référence, c'est entre autres pour ne pas se trimballer avec son vieux dossier, avec les vieilles références, avec ses binaires dans le Git. Mm-hmm. Des choses qui sont arrivées progressivement dans .NET du fait de l'usage de Git.
Il y a même d'autres notions. Hein, quand tu regardes, si jamais tu as un conflit, par exemple, c'est quand tu as un conflit avec Git, c'est il te met une section dans ton texte en mettant la version avant, la version après, avec un format spécifique. Le compilateur C# reconnaît ce pattern-là pour être capable de te proposer un code fixe.
Je n'avais pas vu ça.
Donc dans Roselyne, il y a du code pour parser les syntaxes de Git diff, quoi.
Les paquets de référence, ça vient pas justement de Node.js. Ils n'ont pas pompé sur Node.js quand ils ont fait .NET Core, ça.
Bah, c'est pas le même fonctionnement.
Avant, tu avais ton packagist, ton dossier packagist avec les DLL et ça aurait tué Git, c'est sûr. Mais...
Ouais, mais c'est. Regarde, il y a des gens qui reproduisent la partie package référence justement en prenant d'autres clients que NPM. Tu prends du. Pas du Yarn, mais tu prends du PNPM avec un produit qui est très sympa, qui fait comme le package référence avec un cache dans le profil de l'utilisateur. Et tes librairies, en fait, c'est juste un lien symbolique et tes fichiers ne sont pas dupliqués sur ton poste. Pour les gens qui font beaucoup de nodes, ça permet de gagner beaucoup d'espace sur le disque dur parce qu'en fait, les dossiers non modules ne contiennent rien, c'est juste des liens.
Moi, j'achète des disques durs.
Ah ouais.
Des SSD, j'espère. Parce que bon,
Monsieur Clark.
Bien, pour la dernière partie, dans la partie code C#, je vais faire plaisir à Laurent et je crois à Christophe aussi. Pour le développement C#, vous utilisez quoi ? Visual Studio, Visual Studio Code ou Rider ? Ou autre, d'ailleurs ?
Bloc-notes.
Ouais, vous savez, être sûr qu'il y en a un qui allait le dire, celui-là.
il fallait qu'il y en ait un qui le fasse.
Qui c'est qui va sortir VI maintenant ?
Ah. Non, il y a Vim. Attends.
Ouais, il y a
un peu de couleur, mais bon.
Alors, je pense que c'est plutôt Visual Studio en général, mais parce que, en fait, un des problèmes que j'ai avec Rider, c'est qu'ils sont toujours 1 ou 2 mois en retard par rapport au release de .NET. Mm. Comme je dis souvent sur les previews ou c'est Bleeding Edge, là, bah, souvent ça te retarde à ce niveau-là. Donc, c'est le côté où, comme bah, c'est totalement intégré dans Visual Studio, Visual Studio et Roselyne travaillent en même temps, bah, quand il y a une preview qui sort, elle est dispo tout de suite. C# 11, il marche tout de suite day one. Alors que dans Roselyne, bah, t'attends 1 mois en général. Avec non, Rider, pardon, t'attends 1 mois ou parfois 2. Donc ça fait le petit décalage que j'aime un peu moins. Plus personnellement, j'ai quelques bugs qui sont remontés qui n'ont jamais été fixés en 1 an. Donc un jour, ils fixeront leur parseur Blazor, j'espère. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Quoi.
Laurent, tu veux nous parler de Rider ?
Ah, je voulais laisser parler Christophe parce que moi, je pense que tout le monde connaît mon avis là-dessus.
Alors moi, je suis très loin d'être dogmatique parce qu'en fait, moi, j'utilise les trois pour des raisons diverses et variées. J'utilise en fait VS parce que c'est mon éditeur historique et c'est là où j'ai la meilleure productivité. Et je rejoins absolument ce que disait Gérald. C'est là que tu as les new features dans les previews, donc que tu peux t'éclater qu'avec VS en fait, parce que Rider, quand même ça compile, il va te dire « je ne comprends pas ce que tu me racontes ». J'utilise Rider quand j'ai besoin d'avoir du code qui est un peu plus poli, un peu plus refactoré avec les trucs à la Richard Porr, parce que je n'installerai jamais Richard Porr sur mon VS. Ça le fait aller aussi vite qu'un escargot asthmatique. Et j'utilise VS Code pour avoir des fois de la légèreté. légèreté, et surtout quand je fais des formations à des gens qui ne sont pas sur l'écosystème Windows, tout simplement parce que c'est des gens qui ont l'habitude de VS Code. Ils viennent de PHP, de JavaScript ou autre, et donc ils ont déjà tous leurs repères. Alors, OmniSharp est loin d'être le meilleur parseur de code qui existe, mais par contre, ils se retrouvent dans un environnement qu'ils connaissent et ils ont de suite une appréhension de moi au langage. J'ai reçu un mec un jour qui m'a dit sur ma vidéo YouTube, il m'a dit « Ah, enfin quelqu'un qui explique facilement comment installer C# sans avoir besoin d'installer 12 gigas de Visual Studio. » Bah oui, parce qu'en fait, tous les tutos que tu trouves sur le net, c'est « t'installes Visual Studio Community et c'est 12 gigas » et le mec qui fait « Attends, moi, sur mon Mac OS avec mon petit SSD qui m'a déjà coûté 2500 balles, c'est hors de question que je mette 12 gigas de VS, quoi. » Ce qui est VS pour Mac, mais ça, on préfère pas en parler. Donc, je suis pas dogmatique, moi. Je travaille avec les trois, dépendant du contexte.
Alors, moi, je suis meilleur aussi, je trouve, c'est sur le debug. Tout ce qui est debug, fonctionnalité de debug avancée. Je parle pas juste du debug step by step, mais quand tu veux analyser des dumps, des choses comme ça, les parallel stack, qui, je crois, sont arrivés dans Rider maintenant, au moins sur les threads. Je sais pas s'ils font sur les tasks aussi. Mais toutes ces genres de fonctionnalités-là qui sont quand même en avance dans Visual Studio actuellement, quoi. Mais ce sont des besoins plutôt de niche. S'entend.
Et d'ailleurs, pour les mêmes raisons, donc, je dirais Visual Studio en anglais. Parce que quand tu as des trucs qui sortent, tu as intérêt à avoir tout en anglais. Parce qu'au départ, quand tu cherches quelque chose, sur Google, je veux dire, le truc en français, il n'y a personne qui connaît. Hein, ou ça t'envoie des trucs, tu ne connais pas les traductions. Et j'ai fait des traductions pour Microsoft. C'est quand même très, très compliqué. Des fois, ça ne veut rien dire, en fait, les traductions.
Oui, oui.
Donc, ou c'est des termes informatiques. Enfin, je n'ai jamais entendu un informaticien appeler ça comme ça. Donc, en fait, tu ne comprends rien de ce que tu réécris. Quoi.
Donc, le fan de Rider, alors Laurent.
Moi, en fait, historiquement, j'ai commencé à utiliser les outils de JetBrains, avec TeamCity et surtout ReSharper. ReSharper, j'ai commencé à l'utiliser avec la version 0.83. Donc, ça date de. Je ne sais pas combien d'années. Peu importe. J'ai pris des habitudes de naviguer le code, de refactoring. Les outils de refactoring, c'était juste une blague à l'époque dans Visual Studio. Il y avait peut-être le rename et voilà, quoi. Le cleaning des using et tout ça, ça fait 15 ans que c'est dedans. Déplacer une méthode, extraire du code, etc. Ça fait depuis toujours que c'est là-dedans. Donc moi, mon outil de production, c'est vraiment ça. J'ai tellement l'habitude avec ReSharper, puis Rider. Effectivement, ReSharper, c'est vrai que dans Visual Studio, c'est relativement lent.
Mais à l'époque, moi, ça me faisait gagner
en productivité. J'étais prêt à payer un peu ce prix-là. Après, ça dépend des tailles de solutions aussi que tu utilises, etc. Ça dépend des options que tu actives. Mais pour moi, aussi... Un autre argument que j'avais, c'est à l'époque, par exemple, l'intégration. J'ai poussé dans l'entreprise l'utilisation de Git en 2008. À l'époque, l'utilisation de Git dans Visual Studio, c'était juste une blague, quoi. J'ai même créé un des plugins, Git Diff Margin, juste pour ramener quelque chose d'IntelliJ dans Visual Studio, une fonctionnalité qui a été introduite dans Visual Studio 2022, quoi. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus avancées. C'est vrai que la version arrive un peu après. Souvent, moi, j'utilise ce qu'ils appellent Early Access Program pour avoir accès à une version qui a déjà certaines fonctionnalités, qui est un soft beta, quoi. Mais bon, je n'ai pas besoin non plus d'être tout le temps au dernier mot. Après, Visual Studio, nous, on a une application WPF. Les outils pour WPF sont plus avancés dans Visual Studio. Donc, des fois, on retourne un peu vers Visual Studio. Il y a d'autres choses aussi. Il y a des outils, par exemple, la recherche avancée de ReSharper, elle n'est pas portée dans Rider. Et ça, c'est un manque pour moi. Et des fois, je dois retourner vers ReSharper dans Visual Studio pour avoir ces fonctionnalités-là quand j'en ai besoin. Quoi. Mais sinon, pour moi, c'est l'outil le plus productif dans un environnement Git, GitHub et C#. Quoi. Pour moi.
Après, ce qui est bien, c'est que la compétition fait que Visual Studio a énormément progressé en 2 ans, on va dire. Alors que ça, c'est grâce à Rider qui arrive en compétition, quoi. Clairement, et ça fait du bien à l'écosystème. Et puis Rider progresse aussi grâce à Visual Studio. Des fois, on voit les fonctionnalités qui passent de l'un à l'autre dans les deux sens, là, donc c'est vraiment cool. Pour les développeurs, c'est génial, quoi.
Okay. Bah, nous, c'est marrant parce qu'on est une équipe de 8 maintenant. Moi, j'ai commencé à utiliser Rider. Il m'a fallu trois tentatives pour passer à Rider complètement dans mon développement. Et au jour d'aujourd'hui, toute l'équipe a migré sur Rider. On a la possibilité d'avoir les deux licences, enfin tout le monde a les deux licences, sauf une personne qui a pris que la licence Rider. Et tout le monde est passé sur Rider.
Ok, bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour là pour la partie code C#, enfin code pur. Je voulais juste rajouter une chose, c'est quand même, c'est Visual Studio, on a les Visual Studio Code, on a des versions qui sont, enfin pour Visual Studio, on a une version gratuite qui est la version Visual Studio Community, ce qu'on n'a pas, je crois, chez Rider. Il n'y a pas de version Community qui sont gratuites, il y a forcément un abonnement annuel à avoir, quoi.
Alors, l'abonnement annuel, il n'est pas très haut, mais si tu fais de l'open source, tu peux demander des licences gratuites. Ça, c'est à savoir. Si tu es MVP, tu as accès à une licence gratuite. Donc, ça c'est aussi. Bon à savoir aussi.
Ouais. Si tu es étudiant aussi. Est-ce qu'il y a une EAP, qui disait une Early Access, elle est gratuite.
Exactement. Donc,
si tu veux pratiquer un peu Rider avec les dernières news, voter, tu peux avoir l'EAP gratuitement.
D'accord.
Exactement.
Donc, étudiant ou projet open source, tu peux utiliser Rider, quoi. C'est... Bon, c'est intéressant,
c'est même pas curieux.
Et MVP.
Qui te file. Ouais, MVP aussi.
Exactement.
Et dedans, oui, d'accord. Enfin, bon,
c'est intéressant.
Ça limite un peu.
Les MVP, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors, sinon, ça ne veut plus rien dire. Quoi.
Il y en a 6 là. Il y en a 6. Oui.
devdevdev.net Richard Clark.
Bien, eh bien, écoutez, on va passer alors à la partie développement d'application. Dans un premier temps, il y en a encore qui font ça, moi le premier, le développement d'applications desktop. Quel type d'application desktop? Windows Form, WPF, WinUI, MAUI ou PWA ou autre chose? Qui veut se lancer?
Nous, ce qu'on fait principalement actuellement, c'est plus du Blazor. Avec 6OS sur du desktop, bah on fait juste une WebView. Comme ça donne. Parce que Blazor donne quand même des bonnes facilités de développement, enfin une expérience de développement qui est appréciée par les développeurs actuellement. Donc, bon, c'est ce qui semble être le plus apprécié pour nous. Après, on a du WPF en masse dans plein de projets. Là. Donc, de toute façon, on doit garder ça et on va continuer à faire ça pendant longtemps, à mon avis. WinForm, on n'en fait plus trop nous. Après, ça reste quand même une bonne tech qui marche bien, qui est simple à prendre en main. Là. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas en faire. Et puis, c'est plus actif en termes de développement que WPF.
Il y a le chien qui n'est pas d'accord.
Ouais. Puis après, WinUI, j'en ai jamais fait, je crois. J'ai jamais vu le besoin pour le moment. Donc, pour le moment, je me tiens loin de ça.
Oui, c'est un peu vrai.
Olivier ?
Moi, je vais te dire, dans un premier temps, MAUI, forcément. Mais je veux dire, en fait, non, pour du desktop, c'est pas absolument la meilleure solution. Moi, je suis un vieux de la vieille qui adore WPF. Hein, je veux dire... Pour moi, C# XAML, c'est WPF. Je veux dire, pour du desktop, je trouve ça génial. Et on a une liberté, on a beaucoup de puissance, on a tout ce qu'il faut et des outils merveilleux qui sont passés un peu dans VS, mais qui restent comme l'IDE à part qu'il y a pour WPF, qui est génial. Ça, c'est ce qu'il y a de, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. WinForm, franchement, c'est une vieille technologie complètement dépassée, mais on sait que c'est vachement utilisé. Et quand tu vas dans des tas d'endroits, moi j'aime bien chez les clients, il y a des tas de trucs, les mecs qui continuent à faire du WinForm. Et Microsoft, ils ont des statistiques, quand tu crées des nouveaux projets, ils remontent un peu ce que tu fais, quand même un peu. Et ils savent que, enfin, il n'y a pas encore très longtemps, les dernières statistiques, c'était plus de 50% des projets nouveaux étaient faits en WinForm. Quoi, je veux dire. Donc, C'est pas un truc qui s'utilise, quoi. Je veux dire, on va pas faire du basique interprété aujourd'hui, quoi. Je veux dire, on va pas utiliser du WinForm. Je veux dire, MAUI, c'est un super choix si jamais tu dois faire du desktop avec peut-être la vue de le faire tourner sur Mac et sur PC en même temps, par exemple, ou peut-être de faire évoluer la base de code vers du code cross-platform, même si c'est pas si évident que ça, parce que les UI sont quand même très différentes. Mais enfin, si tu as une base de code commune, c'est pas mal. Et puis après, effectivement, on retombe sur. Alors, tu as WinUI. Mais WinUI, c'est gentil, mais WinUI, c'est quoi? C'est l'UWP remanié. UWP, personne n'en a voulu. Et UWP, c'était un truc qui venait d'où? De WinRT, dont personne n'avait voulu non plus. Donc, c'est la lignée de l'échec complet de trucs qu'ils veulent nous faire faire et en fait, dont personne ne veut. C'est pas mal fichu, on ne peut pas dire, mais il y a un état d'esprit. Et pourquoi faire du WinUI? Bon, tu peux faire du WPF ou du MAUI, quoi. Genre, bon, à mon avis, et si tu as envie vraiment d'une vieillerie absolue, oui, fais du WinForm parce que ça marche toujours. Je veux dire, ça, au moins, ça marche toujours. Donc, c'est un problème un peu. En fait, à la fois complexe et en fait très simple à régler, mais WinUI 3, il faut regarder ce que ça fait. J'ai pas eu le temps de trop tester, mais bon, c'est vrai que bon, c'est pareil que WinRT, UWP, machin, etc. Donc,
Ouais, je vais faire juste une petite parenthèse. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à la dernière build, il y a eu un abonné absent qui est un certain Kevin Callow, qui n'est apparu dans aucune conférence, quoi. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'avenir de WinUI, on peut se poser des questions. Il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose? Oui, Laurent?
Oui, on parlait des desktop applications, MAUI, multiplateforme. Je pense que pour les gens qui viennent de WPF, il y a un projet qui s'appelle Avalonia, qui est vraiment super intéressant. Pour moi, c'est un peu le WPF VNX que Microsoft aurait dû faire, qui a été fait par des gens de l'open source, quoi. Qui est utilisé d'ailleurs dans les outils.
Je trouve qu'il y a mieux qu'Avalonia, c'est Uno Platform. Je suis abonné à la newsletter, c'est des psychopathes en fait. Je vais pour l'avoir testé. En fait,
c'est des Québécois, c'est normal.
Sur YouTube, en mode ouais, un projet open source, ça mieux que Microsoft, parce que c'était sorti bien avant MAUI et ça allait vachement mieux pour essayer un peu de clasher le truc. Et en fait, pour avoir fait Uno, j'avais passé quoi 3 heures et j'avais fait une application avec des réflexes de développeurs WPF assez rapidement et c'était super propre. Enfin, c'est.
Ouais. Donc, Uno, ça vient UWP. Hein. C'est pas l'origine, c'est pas WPF. C'est pour ça que moi je suis un peu biaisé parce que je viens de WPF.
J'ai passé la certification.
Mais les deux projets sont intéressants.
Ouais. J'avais passé UWP à l'époque et vu que j'avais fait une appli WPF à ce moment-là, j'ai trouvé que UWP avait quand même sacrément des avantages, notamment pour tout ce qui était responsive et tout ce qui était les bindings compilés que tu n'as pas en WPF. Alors je ne sais pas s'ils l'ont rajouté depuis, ouais. Parce que depuis.
Oui, et voilà. Qui depuis disparaissent.
Voilà, c'est des trucs qui sont qui à l'époque du WP te donnaient vraiment un feeling d'application moderne et de la robustesse à la... parce que quand tu passes 5 heures à éplucher la source de ta sortie pour essayer de trouver ton binding qui marche pas, c'est mieux qu'il soit compilé dès le début, quoi.
Ouais, mais c'est parce que tu l'as pas eu au début, Christophe, parce que faut se rappeler quand même quand on a eu WP et puis qu'on a eu WinRT comme vous avez dit, on a eu des souffrances, hein. Moi j'ai vu du garbage collector qui passait, qui supprimait des objets qui étaient posés en XAML. Donc il y a des bindings qui volaient et personne ne s'en rendait compte, c'était catastrophique. Donc c'est quand même assez... c'est techno très complexe. C'est pour ça que moi, par exemple, pour tout ce qui est Windows, je serais tenté de dire, oui, dès qu'on va avoir une techno XAML qui va poutrer, allons-y. Aujourd'hui, pour les perfs, malheureusement, WinForm, ça fonctionne encore mieux. Pour tout ce qui est application vraiment client riche, les gens, quand ils voient les choses évoluer, ça finit toujours par être du WinForm, malheureusement. C'est vrai que pour les gens qui veulent du rapide, moi j'aime beaucoup effectivement ce que poste en ce moment Olivier sur MAUI, parce que c'est ça aujourd'hui, les gens qui veulent les applications créer, déposer rapidement sur un store, du MAUI c'est sympatoche pour ça. Pour les applications très évoluées, on finit sur des grosses UI, et on finit sur des grosses UI qui vont être sur la partie que moi j'aime pas, qui ne sont pas accessibles pour les handicapés, contrairement à XAML qui de base a énormément de notions d'accessibilité.
Alors il y en a de plus en plus dans MAUI, donc...
Oui, mais justement, dans MAUI, parce qu'il y a tout cet héritage un peu tiré de toute la partie markup, on va dire, historique, hein, ouais. .NET 3. Donc, c'est .NET 3 a vraiment apporté là-dessus une fluidité sur la partie interface. Les gens n'ont pas aimé WinRT, parce que ça n'a pas été compris, n'ont pas aimé WP, comme tu disais. Il y a des choses très intéressantes là-dessous. Au niveau perf, il faut quand même se rappeler que tout ça nous a ramené .NET native. Ça a apporté beaucoup de choses très intéressantes. Les gens qui aiment beaucoup aujourd'hui la partie WinUI sont des développeurs C++. Hein.
Là, il faut dire aussi que UWP, WinRT, le problème qu'il y avait, que moi je rencontrais quand on parlait de cette techno-là, c'est que au moment où on avait UWP qui commençait à avoir un petit peu qui était assez stable, enfin tout du moins stable pour on va dire le commun des mortels, hein, qui est garbage collector qui nettoyait ton app, mais et qu'on a passé l'assertif, on l'a tout de suite banni parce que ça te limitait à Windows 10. Tu ne pouvais pas le faire tourner sur Windows 7 ou Windows 8. Mmh. Et ouais. Du coup, WPF. Et c'est après avec WinUI, je ne sais pas s'ils ont la rétrocompat avec Windows 10. Et après, tu dois avoir une notion de versionning aussi. Donc en fait, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que si tu veux faire une appli Windows, généralement, tu veux targeter tous les Windows. Il y a encore des gars qui tournent sous Windows 7. Hein, donc c'est de ce fait-là, ça t'impose naturellement soit du WinForm, soit du WPF.
Après, un des problèmes dans toute la stack qu'on a parlé, c'est qu'il n'y a rien qui marche sur Linux, à part d'aller dans l'open source avec Uno ou Avalonia, mais MAUI marche que sur Windows et Mac, et Linux, c'est quand même une part de marché qui est importante. Là.
Pour ça mais Linux, c'est quand même peu d'interface utilisateur en Linux, c'est surtout des serveurs. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas non plus l'accent trop là-dessus. Plus sur Mac, qui sont des trucs de end-user, les serveurs qui tournent sur Linux, est-ce que ça vaut le coup de se s'enquiquiner avec des trucs qui font de l'UI cross-platform quoi. C'est un peu,
Je veux pas du UI sur serveur. Il y en a qui utilisent Linux en desktop, même pour du dev.
Non, je sais qu'il y en a. Quand je dis que majoritairement, c'est des serveurs, ça ne veut pas dire que je dis qu'il n'y en a pas qui l'utilisent en utilisateur, mais on sait bien que c'est marginal. Quoi. Bon, c'est, ça reste, et ça reste toujours marginal. C'est peut-être dommage. Hein, je veux dire, moi, j'ai pas de religion là-dessus. J'aime bien Linux, mais je veux dire, voilà, faut le constater que ça fait 30 ans, depuis que je suis en informatique, qu'on nous promet que ça sera le grand soir demain pour Linux. Je veux dire, il y en a peut-être là qui n'étaient pas nés ou qui étaient en culotte courte, que moi, je l'entendais déjà. Donc, ça arrivera peut-être un jour. Hein, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai que ils ont mis l'accent, et ça, je trouve que c'était pas mal, de le mettre sur Mac. C'était une bonne ouverture. Qu'on l'ait sur Mac, qu'on ait sur iOS et qu'on ait sur Mac aussi. Quoi. C'était un truc. Et je pense que c'est certainement plus important stratégiquement de pouvoir attaquer des interfaces sur Mac que Ubuntu ou autre chose. Quoi, tu vois,
totalement d'accord. Ouais.
Mais c'est vrai que...
va quand même aller finir l'ouverture. Ça, ce serait bien. Quoi.
Ouais, mais dans ce sens, il faut se rappeler une chose. Les gens aiment beaucoup les conteneurs. Les conteneurs, ça traduit la logique effectivement que dit Olivier. Hein. C'est fait pour du serveur, c'est fait pour du service, du back-end. Et il n'y a pas d'objectif dans les conteneurs, Docker, Kubernetes ou quel que soit les techno pour orchestrer les conteneurs. Il n'y a pas de logique pour avoir un jour une nuit.
Non, c'est pas le but.
Après, il y a toujours Electron pour faire ces applications.
Hein. On a dit nuit, chat.
Qu'est-ce qu'il dit
le monsieur
du web, Ben, je vous rappelle qu'on est en train d'enregistrer sur Teams et jusqu'à preuve du contraire, on est toujours sur Electron.
Ouais. Et voilà, il a plombé l'ambiance.
Ça dépend, t'as ton browser, Teams Web, t'es pas dans Electron.
Oui, voilà.
Par contre, je sais pas si vous avez regardé par rapport aux UI, moi j'ai beaucoup regardé pour la partie accessibilité, je me suis toujours arraché les cheveux pour faire des choses qui marchaient bien, qui soient testables et autres. Là, je me suis retrouvé il y a pas longtemps à faire des projets Blazor, donc on sort un petit peu du contexte. Une forme, par contre, il y a une interface. J'ai des projets. Aujourd'hui, j'arrive à une couverture de code en termes de tests unitaires. Je suis à 98%. UI comprise. 98%.
On peut dire que les techno web sont très testables, sont très bien faites. Tu as plein d'outils. Les dev tools sont très complets quand même par rapport à ce que tu pourrais trouver pour IWPF, par exemple. Tu as quand même un niveau de debug ou d'investigation qui est plus poussé. Quoi. Mm-hmm. Donc, ça, c'est intéressant.
Alors, justement,
les outils de test, sur Playwright, etc. Là. Ouais. Automatiser un UI complètement de manière simple. Même la partie, la partie pour les ceux qui ont les déficiences visuelles, etc., là, l'accessibilité, tout ça, ça se teste aussi. Donc, vraiment cool.
Alors justement, vous m'avez devancé pour la partie suivante. C'était pour le développement des applications web. Alors, j'ai scindé ça en deux. D'abord, pour un intranet, qu'est-ce que vous conseilleriez comme type de techno, MVC, Blazor, SPA, mais pour un intranet?
Sur un intranet, du Blazor, c'est pas mal. Hein, je pense que c'est pas un mauvais choix. Hein. Après, on sait que Blazor, on a des problèmes de perf un peu au niveau serveur, machin, etc. Donc pour des grosses applications, peut-être pas, mais en tout cas à l'heure actuelle. Mais pour de l'intranet, où tu as la main sur tout et sur l'infrastructure, etc., je pense que c'est une bonne solution. Quoi. C'est ASP.NET Core, c'est bien. Moi, j'aime bien, mais je pense que Blazor, c'est mieux. Quoi.
Et pour de l'intranet, du Blazor serveur, hein, pas du WebAssembly.
Oui, bien sûr, oui, du Blazor serveur. Oui.
Moi, la question que je vous pose toujours pour répondre à cette question-là, c'est est-ce qu'on a besoin d'interaction? Est-ce qu'il y a des interactions? Parce que c'est vrai que MVC, quand on a juste besoin d'avoir quelques pages dans l'intranet, quelques fonctionnalités rapides, ça poutre. Hein. Il n'y a pas photo au niveau des photos. Enfin, j'ai l'envers. c'est juste incroyable. Quand on regarde ce qui se passe au niveau MVC, quand on n'a pas d'interaction, qu'on a juste besoin d'une vue, un contrôleur de trois actions, c'est hyper performant. Blazor, effectivement, on dit sur la partie Blazor serveur, souvent il y a des petits problèmes de perf, mais il faut voir les perfs de base aujourd'hui avec du Blazor, ça, c'est juste impressionnant par rapport au début. Hein. Surtout sur .NET 7, c'est waouh.
Et alors justement, pour un site qui est un site de e-commerce ou un site qui a un gros trafic, est-ce que vous pensez que Blazor est encore adapté?
Ça dépend ce que tu appelles gros trafic, déjà.
Parce que Pardon?
Les gens appellent gros trafic quelque chose qui n'est pas si gros que ça, en vrai.
Ouais.
Il y a gros trafic et gros trafic.
Oui.
C'est clair que... Amazon ne va pas tourner avec du Blazor, ça c'est clair.
Tu as le pattern des micro-front-end aujourd'hui qui te permet d'avoir des micro-front-end. Et tu as aussi la possibilité d'avoir un site qui serait statique, mais d'avoir des composants en Blazor dedans, avec du MVC et bam bam, tu as trois compos Blazor pour les avoir interactifs. Et là, tu fais un mix des deux mondes, quoi. Donc,
Le seul souci qui me. Enfin, la seule chose qui me fait souci, c'est l'interaction. Enfin, quand on est en Blazor serveur, c'est l'interaction entre le client et le serveur qui se fait avec. Comment il s'appelle là, déjà l'autre là? Ce qui me fait souci, c'est par rapport à un gros trafic, quoi. S'il y a beaucoup de monde et que ces interactions se font de ce type-là, est-ce que ça soutient la charge facilement, quoi?
C'est un point déterminant. Tu peux toujours l'avoir avec WebAssembly. Hein. Tu peux toujours avoir tes compos à WebAssembly si tu as vraiment trop de charge sur un compo en particulier. Ça marchera pareil.
Ouais, mais alors, dans ces cas-là, tu perds le SEO.
C'est pour ça qu'à mon avis, ASP.NET Core, si sur un très gros site qui doit faire un gros trafic, etc., quitte à utiliser éventuellement ponctuellement pour certaines pages des trucs un peu plus trucs de configuration, de machin, tu peux mettre du Blazor, mais ouais, pour tout ce qui doit aller vite et puis qui doit faire du SEO, etc., derrière, bah, tu as la maîtrise totale, quoi. Si les mecs sont bons, ils peuvent vraiment tuner le truc comme ils l'entendent, et là, ça peut être essentiel. Pour un site que tu destines à tes propres fournisseurs en interne, tu t'en fiches. Pour un truc qui doit aller sur Internet grand public, par exemple, non, les SEO, c'est essentiel, machin, etc.
Ouais, mais Olivier, attends, il y a un truc qu'on connaît tous, c'est le gars qui va arriver une fois que le site est développé, qui va te demander la fonctionnalité qui, finalement, va rallier en permanence avec le serveur. Le gars qui veut de la statistique de psychopathe, il a cliqué là, je veux que ça bouge, je veux que ça ceci, je veux que ça cela. C'est, le gars, il arrive toujours à la fin, celui-là. C'est le plus sympa, d'ailleurs.
Oui, souvent, oui, c'est le truc qu'il fait, oui.
Et c'est juste pour revenir sur la partie scaling de WebSocket, donc de signalaire. En Azure, il y a un service pour scaler ça aussi. Tu peux déporter toute la partie connexion, gestion des connexions dans un service Azure. Je ne sais plus comment il s'appelle là, mais
Azure,
ça scale des centaines de milliers ou des centaines de milliers de connexions concurrentes. Quoi. C'est pas trop
la partie serveur.
La partie serveur.
Il y a un bandeau qui dit il reste 5 minutes à votre réunion.
Oui. Tu veux t'en aller, quoi. Toi, t'en as marre.
Ah non, mais ça m'embêterait qu'on soit coupé dans notre élan.
Oui, non, mais là, on va pas aborder les deux autres parties, là, parce que justement, je veux qu'on se limite à une heure d'enregistrement. Je sais pas, on refera peut-être la suite qui était la partie archi, la partie DevOps, peut-être une autre fois. Je sais pas, dans 15 jours ou un truc comme ça, quoi. Si vous avez des dispos. Écoutez, c'était bien sympathique. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
Non, Rider, c'est quand même mieux que Visual Studio.
Jusqu'à les dernières secondes, sur la ligne d'arrivée, je tire la langue. Tu sais.
Non, si vous voulez, moi aujourd'hui, j'ai trouvé un projet avec une librairie que je vous encourage tous à mettre à jour, parce qu'il y en a ici qui ne l'ont pas connu. C'est l'Azure Toolkit. Vous savez, le Ajax Toolkit. Et là, je suis tombé sur un projet qui a une version 4. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu 17 versions majeures depuis. Là, je me dis, le collègue qui livre ça à des clients, et on livre ça régulièrement, je suis en mode panique depuis que j'ai trouvé ce truc-là. Panique. 17 versions majeures à passer. Ouais, jamais.
C'est pas de l'informatique que tu fais, c'est de l'archéologie. C'est pas possible. Oui.
C'est de la magie. Ah, là, c'est la spéléologie. Là, déjà, on s'est rendu compte que le gars, il était tout seul à pouvoir compiler sur son poste parce que finalement, il sait pas comment ça marche. C'est dramatique.
Moi, j'ai un projet là où.
Est-ce qu'elles sont
Non, c'est l'autre. Pas est-ce qu'elles sont, c'est encore pire. Où là, il y a deux librairies qui sont utilisées. Ça fait 6 ans ou 7 ans que la société a disparu. Et c'est une bibliothèque qui est centrale, quoi. Et donc, on prie tous les jours. Il n'y a pas un bug qui apparaît, ce genre de choses.
La dépendance à du code tiers, c'est un des trucs que j'ai le plus peur.
Ouais, ça fait mal en général. Hein.
D'ailleurs, si vous avez une idée, l'idée c'est quoi? C'est à partir d'un écran WPF. Ouais. On compose un écran en mettant différents composants à l'intérieur de cet écran WPF et on génère un rapport PDF.
Ouais. En gros, à partir d'un binaire S400, est-ce qu'on a un moyen de tuer l'application de Maui?
Non, mais l'export d'un canvas, alors c'est sûr qu'on peut faire une image assez facilement, mais l'export en PDF, c'est chou patate et j'ai toujours pas trouvé la solution. Bon, enfin bref.
Tu refais toute l'interface en fait là. Pour imprimer. Waouh.
Ouais, c'est pour générer, c'est de la génération de rapports. En gros, d'un côté, dans l'appli, d'un côté, tu as des bases de données diverses et variées. De l'autre, tu as l'utilisateur qui crée son interface, qui crée ses rapports. Et puis, on génère ses rapports et on génère des PDF dynamiquement. Quoi.
Donc, nous, on a encore du Crystal Report. Ça, j'adore.
Ah oui, c'est
Crystal Report. Ah, Crystal Report.
Moi, je surkiffe.
Je continue l'archéologie, c'est bon.
Ah non, attends, je peux te trouver pire. Hein. Je ferai une liste un jour. Hein.
Je parlais de VB.
Mais VB, on arrive à faire un truc sympa. Ouais. Mais j'ai des collègues, ils ont réussi à trouver un truc génial.
On peut sortir Fortran, mais bon, je veux dire.
Attends. Alors, j'ai un truc, Olivier, c'est super. C'est un truc incroyable. J'ai un collègue, et je les ai mis au défi de me reproduire la situation. Ils ont fait un bloc avec un if en VB. Donc, il y a un if et il y a du code dans le if. Il y a un else. Il y a trois fois rien dans le else. Et puis, en fait, ils n'ont pas mis de return à l'intérieur du if. Ils font le return après. Ouais. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est quand ils font un F5, ils mettent un point d'arrêt. Et après, ils font du F10 pour faire du pas à pas. Et en fait, à un moment, on voit que le point ne revient pas sur la dernière ligne qui est après le end if, mais qui revient sur la première ligne qui est dans le else. Alors, quand on regarde le code machine qui s'exécute, le code machine, il est bon. Par contre, l'IDE, il te fait te balader. Et tu regardes le point, il monte, il descend, et en fait, il nous reproduit dans un truc avec 5 lignes de code. Et j'étais là, je fais, non, mais les mecs, non. Et ils m'ont dit, mais il faut l'envoyer à Microsoft. Je fais, non, mais les mecs, je peux pas, ça, c'est pas possible. C'est immonde. Et on voit que le curseur, il déplace tout seul. Et tu fais F10.
C'est un pong vertical.
Ouais, c'est une espèce de pong qui monte et qui descend. Et là, non, c'est énorme. Ouais. C'est un truc qu'ils vont faire une vidéo sur YouTube pour montrer, tellement c'est rigolo. J'y croyais pas. Hein. J'y croyais pas. Incroyable.
Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée ou nous contacter sur Reddit ou via Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien. Et rendez-vous au prochain pull request.